Première partie, l'étoffe des héros. Chapitre 1. Je sors de chez moi en évitant les regards et m'engouffre dans ma bonne vieille Clio grise. Nous sommes le 14 avril, alors je m'étais dit que cet ensemble acheté 20 euros sur le web ferait l'affaire. Mais il fait une chaleur de bête dans le Vaucluse en ce soir du printemps 2021 et je sens déjà les gouttes de sueur dégouliner le long de ma colonne vertébrale. Coup d'œil dans le rétroviseur, mon maquillage n'a pas encore coulé, c'est déjà ça. Je n'ai plus utilisé d'eyeliner depuis une éternité. J'espère aussi ne pas me choper une allergie et ne pas ressembler dans quelques minutes à un lapin myxomateux. J'enclenche la première vitesse, direction, la fête surprise, mais en fait tout le monde est au courant, y compris moi, organisée par ma meilleure amie, Bintou, pour souffler mes 48 bougies. Je n'avais pas envie de ça, pas du tout. Mais j'ai compris que Bintou ne me lâcherait pas cette année, alors j'ai fini par accepter. J'entends encore résonner sa douce voix. « Anna, ça fait 3 ans que tu ne sors plus, 3 ans que tu te terres, tu mènes une vie de nonne dépressive. Faut que tu rencontres du monde, que tu remettes un jeton dans la machine. D'ailleurs, tu veux vraiment pas que je te crée un profil Tinder ?»« Non merci, Bintou. À défaut de Tinder, j'ai cédé pour cette soirée d'anniversaire. Ensuite, eh bien, je reprendrai mon quotidien. » Ma vie normale. L'extraordinaire, je l'ai vécu. Il est derrière moi, pas devant. Aujourd'hui, je réclame le droit de ne plus avoir d'ambition, de ne plus avoir envie d'une relation avec un homme, de ne plus faire de projet, de vivre au jour le jour. En attendant, j'ai cette soirée à subir. Me voilà donc dans ce déguisement étouffant, cherchant une place dans les rues de l'Île-sur-la-Sorgue, au volant de ma bagnole décrépite. C'est ici que je vis et travaille. Une sorte de petite Venise provençale avec canaux, ponts fleuris et vieilles pierres. Un charme fou, oui, mais un enfer pour se garer. Tout a commencé il y a 3 semaines par un simple échange de SMS et la délicatesse légendaire de mes enfants. Valentina.
Hello, mam. Jette un œil à cet article. Apparemment, ils cherchent des vieux pour partir dans l'espace. J'ai tout de suite pensé à toi.
Neil. T'exagères, Val. Maman n'est pas vieille. Elle est juste vintage.
Vas-y, maman. Montre-leur qui c'est la plus badass.
Si Valentina a tout de suite pensé à moi, c'est parce que la fameuse anecdote sur mon rêve de gamine et ma révolte féministe de kermesse leur a été racontée des dizaines de fois par mon père, toujours avec des trémolos dans la voix et cet air outrancièrement solennel qui les faisait bien marrer. Cet épisode, devenu pilier de mythologie familiale, s'est-il vraiment déroulé tel que je me le représente aujourd'hui? J'étais si petite, je ne peux pas en être certaine, et peu importe au fond. Ce qui compte, c'est que cette séquence fasse désormais partie de notre héritage immatériel, cet ensemble d'histoires qui contribue, à force de répétition, à façonner un socle commun et une vision de la vie. Dans ma famille, nous cultivons l'idée que chaque individu est, d'une certaine façon, le fruit de ses rêves. Bien sûr, tous ne sont pas comparables, et tous ne nous construisent pas de la même manière. Mais tous nous poussent à oser, ou du moins à sortir de l'immobilité confortable de nos chambres. Il y a les rêves minuscules, les plus ambitieux, les une fois dans sa vie, les infiniment grands. Il y a les avortés, les inaccessibles qui galvanisent ou qui nous empêchent d'avancer, les rêves de façade que l'on invente pour plaire à son entourage. Et puis il y a les autres, les intimes, les viscéraux, ceux qui nous tiennent, donnent un sens à notre bref passage sur Terre, ou qui nous lient à quelqu'un, de manière irrationnelle. C'était le cas de ce rêve d'espace de ma jeunesse, qui me raccrochait inéluctablement à la grande absente de ma vie. Ma mère, que j'ai si peu connue, et dont le suicide alors que je n'avais pas 2 ans, a pris toute la place. Celle que mon père n'a jamais pu, jamais su remplacer. Celle qu'il a aimée d'un amour fou, implacable, aussi fugace qu'éternel. Ce qui me reste de ma mère, ce sont des sensations, quelques objets dérisoires, une brosse à cheveux, un bracelet brésilien rompu, un chemisier fleuri, un pantalon noir pâte d'ef aux coutures rouges, la passion des plantes et jardins, et puis ce grand atlas des étoiles,
découvert dans notre bibliothèque quelques semaines avant le spectacle de Monsieur Dubois. À l'intérieur de l'ouvrage, une précieuse photo jaunie, l'une des seules nous représentant toutes les deux, faisait office de marque-page. Sur ce cliché pris sur le vif au cours d'une fraîche nuit de l'été 1974, ma mère et moi sommes étendus dans l'herbe, ma tête reposant dans le creux de son bras gauche. Un sourire énigmatique aux lèvres, elle pointe le doigt vers les étoiles tandis que j'observe le ciel, captivée. Ma mère était une originale, une passionnée d'astrologie qui connaissait le nom des constellations par cœur. Essayait-elle de me les raconter, de me transmettre cette poésie céleste qui l'habitait, cette fascination qui ne me quitterait bientôt plus? Lorsque je regarde cette photo, dont je ne me sépare jamais, je ne peux m'empêcher d'éprouver un mélange de sentiments contradictoires. Un amour fort, instinctif pour cette femme qui m'a donné la vie, pour l'être humain sublime et flamboyant qui se dessine dans les récits de mon père. De l'admiration pour sa beauté mélancolique si évidente, mais de la haine aussi, pour celle qui m'a privée d'une enfance normale et de ce mot si simple, si douloureux, que je n'ai jamais eu l'occasion de prononcer. Maman. C'est sûrement absurde, mais quand mon père affirme que ma mère m'aimait plus que tout, je ne peux m'empêcher de penser qu'il a tort. Dans mon esprit tournera toujours cette conclusion dont je ne peux me défaire. Elle ne t'aimait pas suffisamment. Sinon, elle ne se serait pas donné la mort. Mon père m'a toujours poussé à rêver. Et j'ai fait la même chose avec mes enfants. Mais je crois aussi qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, j'ai passé l'âge des rêves. La vie s'est chargée de me faire redescendre. Ça n'est ni du regret, ni de l'amertume. C'est une forme de lucidité. C'est là que Bintou se gourre avec cette soirée à thématique spatiale, ce subterfuge grossier censé exploiter ce rêve passé d'astronaute pour me projeter vers le futur. Ce qu'aucun de mes proches ne parvient à comprendre, c'est que je n'ai pas envie de passer à autre chose. Je préfère mes souvenirs à vif plutôt que dilués. Ça ne m'empêche pas d'être contente que les autres continuent leur chemin, notamment Valentina et Neil, mes jumeaux, mes merveilles. Moi, j'ai le droit de stagner, je ne gêne personne. Je suis au bord de la liquéfaction dans ce foutu costume d'astronaute de pacotille qui me démange au niveau des cuisses. La climatisation de ma voiture ayant rendu l'âme il y a 10 jours, je m'étais donné jusqu'à l'été pour effectuer la réparation. Mais je n'avais pas prévu que l'été débarquerait mi-avril et qu'il n'y aurait pas de place au parking de la gare. Mais bordel, que font tous ces gens? Personne n'a envie de rester chez soi, ma parole. Ok, il faut dire que depuis un an, entre les confinements et autres fermetures de lieux de vie, l'envie de fuir son intérieur au premier signe de l'été est bien compréhensible. Me voilà donc reparti pour un tour du quartier et une nouvelle suée. SMS de Bintou, que je ne peux pas lire puisque je conduis, mais qui me demande sûrement où j'en suis. Je crois qu'elle n'a pas renoncé à crier « Surprise !» Alors je ferai comme si, et tout le monde sera content. J'ai toujours fait passer le bien-être des autres avant le mien. Et c'est très bien comme ça. Ce n'est pas maintenant que je vais changer. Rien ne m'empêche d'avancer, d'après Bintou. D'après l'ensemble de mon entourage, en fait. J'ai une jolie maison, un quotidien confortable, un métier de médecin généraliste dans lequel je me sens utile, des associés fort sympathiques au cabinet, une passion pour les jardins et la nature en général. Je m'occupe du jardin partagé de ma commune et j'en profite pour donner quelques cours aux enfants des écoles alentours, mes jours de repos. Il paraît même que je suis plutôt jolie. On me compare parfois à Julia Roberts. Je ne suis pas dupe, je sais bien que l'air de famille est très subjectif. On ne peut nous confondre que de nuit, de dos, en étant bourré à la sortie d'une discothèque. Mais enfin, la comparaison est flatteuse, je ne boude pas mon plaisir lorsqu'elle surgit. Pourtant, je ne suis pas vraiment heureuse. Je dois bien l'admettre. Je ne suis pas complètement malheureuse non plus. Mes enfants sont convaincus que je parviendrai un jour à sortir de cet immobilisme. Voilà pourquoi, quand ma fille est tombée sur l'annonce de l'Agence spatiale européenne ouvrant la possibilité de candidater jusqu'à l'âge de 50 ans, contre 40 ans pour la sélection 2008, elle a pensé à moi. C'est adorable, et je l'ai pris comme tel. Mais je n'ai pas envie de ça. Et quand bien même j'en aurais envie, je perçois bien la différence entre quelqu'un comme Thomas Pesquet et moi. Il est une sorte de Superman sans collant moulant, même si le collant moulant lui siérait sans doute. Tandis que moi, je suis juste moi. Anna, 48 ans, femme lambda à la vie lambda. C'est donc au top de l'esprit festif que je sonne au domicile de Bintou, une petite maison de ville à la déco surchargée, mais agrémentée d'un coquet jardin. Bintou aussi a pensé à moi, jusqu'à avoir cette idée stupide, une soirée déguisée sobrement baptisée « I am the next Thomas Pesquet », avec déco et épreuves alcoolisées ad hoc à ce que j'ai compris. Je m'attends au pire. D'autant qu'elle m'a clairement indiqué que pour moi, l'heure de la défossilisation était venue. Lorsque la porte s'ouvre, je suis loin d'imaginer ce qui va suivre. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais certainement pas à ça.